Nous désirons, Seigneur, être instruits encore ce soir de ta part. S'il te plaît, Seigneur, visite-nous. Et visite-nous, Seigneur, lorsque nous apprenons ta parole, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous l'interprétons, lorsque nous la méditons. Aide-nous. Vole, Seigneur, au secours de nos frères et sœurs. Ce soir encore, Seigneur. Conduis nos cœurs, Seigneur. Tu connais ceux d'entre nous et celles d'entre nous, Seigneur, qui ont besoin d'une correction, ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une nouvelle manière de penser. Tu connais, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être repris, d'être instruits, d'être éduqués, etc. Tu connais, Seigneur, les différents besoins. Ce soir, nous trouvons devant toi, nous étalons nos cœurs, nos âmes devant toi, Seigneur. Opère par ton esprit, et lui, Seigneur, sait nous conduire dans toute la vérité ce soir encore. Béni sois-tu pour ta présence et merci pour ceux et celles qui vont nous rejoindre, Seigneur, plus tard. Ceux qui vont suivre cette méditation en différé, nous nous remettons tous entre tes mains. Continue de nous parler, Seigneur, et surtout, donne-nous un cœur pour t'aimer, un cœur pour te respecter. Gloire à ton nom, Père, pour toutes choses. Par Jésus, ton Fils, nous te prions. Amen.
Amen. Amen.
Voilà, nous allons écouter la lecture de la parole du Seigneur par notre Père.
Allô?
Oui.
Oui. Je vais faire la lecture dans la version Louis II. Il n'y avait plus de pain dans tous les pays, car la famine était très grande. Les pays d'Égypte et les pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans les pays d'Égypte et dans les pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Et il fit entrer cet argent dans la maison des pharaons. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant: Donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit: Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux et de la. Et si l'argent manque, excusez-moi. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et leur dirent: Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leurs champs parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple: Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer les sols. À la récolte, Vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous vivions grâce aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Joseph vécut 17 ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent des 147 ans. Lorsque Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre. » Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Joseph dit, « Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph le lui jura. » Puis Israël se posterna sur le chevet de son lit. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Merci, ma sœur, pour la lecture. Voilà, frères et sœurs, pour ce soir. Le texte nous a été lu, nous avons prié, le Seigneur est parmi nous. Nous avons pour beaucoup, j'imagine, je l'espère, déjà médité le texte dans la journée ou le matin. Tout ce qu'il faut, évidemment, est déjà en place pour pouvoir faire notre... Du verset 13 jusqu'un peu au verset 26, nous avons... nous assistons à une réforme de politique sociale que Joseph va mettre en place en Égypte. Nous connaissons que c'est la crise, une crise qui a fait suite à un temps d'abondance, mais les qualités des prévisions et d'administrateur de Joseph va permettre de sauver la vie, non seulement à sa famille, mais aussi à l'Égypte tout entière, à Canaan tout entier, et certainement aux autres peuples des environs. Donc par la fidélité d'un seul homme, par son attachement à Dieu, beaucoup peuvent avoir la vie sauve. Le cri que le peuple d'Égypte lance au verset 25 en disant « Tu nous sauves la vie », c'est un cri caractéristique. Ce sont des mots, des paroles qui peuvent être mises dans la bouche de tous les Cananéens, comme ce sont des mots qui sortent de la bouche de tous les Égyptiens. C'est aussi des mots qui peuvent sortir de la bouche de toute la famille de Jacob. Et ainsi, par la fidélité de cet homme dont la vie est un témoignage pour beaucoup d'entre nous, pour moi en particulier, cet homme dont la vie est un exemple absolu, un exemple à suivre, fait en sorte que beaucoup de personnes ont été sauvées. Il est au fait l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par sa fidélité, son attachement à son Père, il va sauver la vie, comme dit le prophète Ésaïe, la vie de beaucoup, parce qu'il a donné sa vie comme la rançon de plusieurs. Nous allons regarder partie par partie, parce que selon mon découpage, on peut aller du verset 13 jusqu'au verset 26, pour voir cette installation, cette mise en place de la politique sociale que Joseph va appliquer. Et puis ensuite, je mets à part le verset 27 que je trouve ici comme l'accomplissement, le début de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham longtemps, longtemps avant, au chapitre 15 de Genèse. Il s'agit de la multiplication du peuple. Et puis la deuxième partie de cette promesse-là se fera encore plus tard à Canaan. Mais au moins ici, le Seigneur commence déjà à multiplier le peuple. Puis ensuite, la dernière partie qui ira du verset 28 jusqu'à la fin. Moi, je parle ici de la prévision, de la planification ou un planning qu'on peut mettre en place parce que Jacob pense déjà à son enterrement. Ce qui, de nos jours encore, est un bel exemple à suivre parce que nous savons combien de fois, surtout dans nos communautés, dans des églises, nous faisons des fois face à des difficultés. Lorsqu'il y a quelqu'un de nous ou un membre de famille s'en va par manque de planification, parfois nous sommes en difficulté. Voilà, frères et sœurs, en guise d'introduction, comment nous pouvons faire notre partage ce soir. Donc, la table est mise pour pouvoir partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur, soit lorsqu'on écoutait la lecture, ou même aussi des vérités que nous avions déjà eues du Seigneur lors de la méditation plus tôt ce matin ou cet après-midi. Voilà, frères et sœurs, la table est mise, nous pouvons partager la parole. Je vais y aller un peu dans la première partie avec le verset 13. Un verset qui montre disons, qui confirme davantage. On dirait que dans le verset 13, nous sommes ici, je pense que nous sommes peut-être à la deuxième, troisième année, deuxième année de la famine déjà. La famine devait durer 7 ans et il y a encore 5 années à venir. Et au début de la famine, les gens ont encore des réserves. Mais là, avec le verset 13, nous assistons déjà à un peu de profondeur dans la difficulté au niveau des difficultés que la population éprouve. Et c'est ainsi que plus tard, ils vont venir pour voir Joseph. Il y a un mot, un verbe dans ce verset-là. Dans ma version française, Louis II, 1910, on parle du peuple, donc du pays d'Égypte, du pays de Canaan qui languissait. Ce verbe languir est un verbe assez profond pour montrer la détresse dans laquelle le peuple se trouve. À cause de la famine, le peuple souffrait. Le peuple soupirait après un secours et finalement ils vont se tourner vers Joseph pour pouvoir avoir la vie sauve. Donc Dieu confirme encore sa parole qu'il a fait voir à Pharaon dans un songe et là on voit la profondeur ou la difficulté assez profonde dans laquelle le pays était plongé par la sécheresse qui sévissait dans la région entière. Pasteur José, vous avez la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Bien-aimé, je prends le 14e verset. Ici, nous voyons que les Égyptiens et les Cananéens achetaient, bien sûr, de vivre à Joseph. Et Ce qui attire mon attention, c'est le fait que Joseph a pris cet argent, il le fit déposer dans le palais du Pharaon. Il n'a pas empoché ou encaissé cet argent dans sa maison ou dans son compte, mais il le fit déposer dans le palais du Pharaon. Si je vois l'honnêteté, la simplicité, l'oubli de soi et le service honorable qu'ils iront à la nation égyptienne en général et au roi, le pharaon en particulier. C'est vraiment un très bon exemple à suivre d'être très honnête comme la Bible nous montre ici en ce qui concerne Joseph. Que je sois comme cet homme de Dieu. Merci.
Merci, Pasteur José. C'est ce qui saute vraiment aux yeux. Il est clairement dit qu'il fait entrer cet argent dans la maison de Pharaon, donc dans le palais de Pharaon. Un intendant fidèle, je crois que nous pouvons, au fait, personne ne peut être étonné qu'à ce moment ici, avec tous les honneurs dont il est l'objet, que Joseph continue d'être aussi intègre, aussi fidèle. Au fait, s'il a su l'être dans les petites choses, on voit que même au sommet de la gloire, il l'est toujours. C'est pour cela, dans le même verset, j'ai besoin, comme le pasteur venait de le dire, j'ai besoin d'être intègre, honnête, respectueux de l'autorité qui est établie, savoir que là où je suis, partout où je peux aller, j'ai des droits, mais j'ai aussi des limites, que je respecte les limites qui sont établies, que ce soit dans l'Église ou ici au FIMES, que ce soit même dans les activités séculières que nous sommes en train de faire aussi. Nous avons des droits, mais nous avons des limites aussi, qu'on les respecte. Si nous le faisons dans les choses qui sont, dans les choses dans lesquelles le Seigneur nous place aujourd'hui, c'est comme ça que nous pouvons aussi les devenir quand nous serons dans des situations qui exigent encore beaucoup plus de fidélité, comme ce cas ici. C'est vraiment, encore une fois, un très bel exemple à suivre. Merci beaucoup. Passez-les, Maman Christine, vous avez la parole. Passez-les.
Oui, merci Papa José pour la parole. Je suis dans les deux versets suivants, le verset 15 et le verset 16, parce que là, la situation se complique. La situation se complique dans le sens où l'argent est épuisé dans le pays. Et maintenant, des foules et des foules viennent voir Joseph. Le texte nous dit, tous les Égyptiens vont venir voir Joseph pour lui dire, tu nous as demandé l'argent, nous avons donné l'argent, mais nous n'avons plus rien. Il pensait mettre cet homme d'État devant le pied du mur pour le faire voir, mais on va voir qu'est-ce qu'il va encore faire. Est-ce que ça sera pour qu'on casse tout, toutes les provisions, pour qu'on puisse tout piller? Mais cet homme a une sagesse que personne ne pouvait s'attendre. Vous n'avez plus d'argent, amenez les cheptels, amener du bétail. C'est ainsi, le problème qui était un problème très grand, cet homme est rempli de la sagesse divine pour trouver toujours une solution au problème qui se pose. Ça, c'est vraiment un exemple à suivre. Partout où nous sommes, nous pouvons être au travail, nous pouvons être à l'église, nous pouvons être au FIMES. Demandons toujours la sagesse divine pour résoudre des problèmes. Et cet homme, on le voit servir à Pharaon, mais lui, il est tellement dévoué, il sait qu'il est en train de servir Dieu. Apparemment, c'est Pharaon qui l'a placé là, mais lui est conscient que ce n'est pas Pharaon qui l'a placé là, c'est Dieu qui l'a placé là. Donc, si nous pouvons vraiment avoir une telle attitude, que partout où nous ne sommes pas au service d'un homme, c'est Dieu que nous servons. Même si nous sommes en train de travailler partout, dans l'entreprise, au gouvernement, à l'école, partout, c'est Dieu qui nous a placés là-bas. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Célé. C'est vraiment à prendre au sérieux, réaliser que où que nous soyons, nous sommes au service du Seigneur. Quelle que soit la position que nous occupons dans la société, dans l'entreprise, nous savons que cela, pour aujourd'hui, c'est ce que Dieu nous a donné d'occuper. C'est la place que Dieu nous a donné d'occuper. Et que ce que nous le faisons pour le Seigneur. Nous avons des textes qui appuient cette manière de voir. Si nous disons, nous déclarons que Dieu gère les temps et les circonstances, si cela est vrai, si nous le croyons vraiment, alors nous pouvons croire que ce que nous sommes, où nous sommes aujourd'hui, Dieu a mis en place les circonstances telles que j'occupe la maison que j'occupe, que j'ai le poste que j'ai, que je sois dans la ville où je me situe aujourd'hui, parce qu'effectivement, le Seigneur gère les temps et les circonstances. Je voudrais encore un peu plus tôt dans le verset 14, mais il y aura aussi d'autres similitudes, par exemple avec le verset 20, encore avec le verset 22, dans la suite, le verset 26. Nous voyons que Joseph revient souvent avec la même idée, la même fidélité, c'est-à-dire d'apporter toujours tout ce qui vient du résultat du travail et mis au service de Pharaon. Ce qui veut dire, en bout de ligne, donc à la fin, nous voyons que Pharaon, en fait, le verset 26, va dire que toute l'Égypte appartient à Pharaon. Quand on dit comme ça, c'est pas seulement les terres, même les biens, parce que si, comme on venait de l'entendre, les troupeaux ont été troqués contre la nourriture, ça veut dire les animaux, les propriétés, le pays entier, tout appartient à Pharaon. Donc, Pharaon devient alors, on peut dire, dans les circonstances, c'est vraiment l'homme le plus riche qui soit. Pendant que la famine sévit à gauche, à droite, lui, il s'enrichit. Cet homme est vraiment béni parce que, dans un sens aussi, dans un sens, il a su prendre soin du peuple de Dieu. Et une des promesses de Dieu nous est donné pour rappel dans Genèse 12, verset 3. Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Et il va même ajouter, « Et ceux qui te maudiront, je les maudirai aussi. » Et par la suite, il va dire que toutes les tribus de la terre seront bénies à toi. Donc, c'est vraiment important de comprendre ce que Dieu dit et de ne pas aller à l'encontre de ce qu'il annonce ici. Parce qu'Abraham a su prendre soin du peuple de Dieu, le Seigneur s'occupe de lui. Et nous avons encore aujourd'hui le peuple de Dieu. L'Église, c'est la maison de Dieu, frères et sœurs. Et si nous faisons ce que Dieu demande, n'avons-nous pas lu dans Galates, chapitre 3, que Dieu dit qu'aujourd'hui, l'Église en elle autant les juifs que les non-juifs, nous avons aujourd'hui accès à la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que ce qui a été donné à Abraham, ce qui a été promis à Abraham, l'Église y a accès aujourd'hui. Toi, mon frère, ma sœur, en Jésus-Christ, tu y as accès aussi à ces promesses-là par ta foi en Jésus-Christ. Ce qui veut dire s'occuper du peuple de Dieu revient aussi à hériter de la promesse faite à Abraham que si quelqu'un bénit le peuple de Dieu, si quelqu'un bénit Abraham, Dieu le bénira aussi. Si quelqu'un fait du mal à Abraham, Dieu lui fera aussi du mal. Voilà un accomplissement encore d'une vérité qui a été annoncée longtemps d'avance et que Dieu concrétise ici sur Pharaon et sa maison. Papa Célé ou Maman Christine, vous avez la parole. Papa Célé?
Oui, je disais merci beaucoup pour la parole. Je reprends la parole parce que je n'ai pas vu notre demande demain.
Mm-hmm.
Effectivement, le peuple a apporté les cheptels, tout le bétail. Ils ont encore tout épuisé. Et ils vont jusque eux-mêmes à proposer à Joseph que maintenant que nous n'avons plus ni l'argent, ni un cheptel avec nous, vous pouvez nous acheter, nous et nos terres. Mmh. Comme ça, nous deviendrons des esclaves du pharaon. En faisant cela, ils vont même proposer eux-mêmes, déjà au verset 19, « Donne-nous de quoi semer pour survivre et ne pas mourir pour que nos terres ne soient pas dans la désolation. Mmh. » Joseph, dans toute la sagesse, va sauter sur cette proposition pour faire effectivement ce qu'ils vont demander, ce que le peuple va demander. Et même les terres, le verset 20 nous dit, Joseph va acheter toutes les terres pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent à chacun, le pays devint la propriété du Pharaon.
Mmh.
Alors, je me dis, Pharaon, c'est en fait l'État. L'État est devenu riche, mais l'État s'occupe du peuple. Le peuple a à manger parce que l'État les gère. Le peuple, au lieu de s'acharner contre Joseph, au contraire, le peuple est content du deal qui est fait entre le peuple et l'État. Le peuple a confiance dans l'État et l'État a confiance dans le peuple. Quelle complicité!
Mmh.
Et ça, c'est vraiment un exemple à suivre, de voir le peuple à la fin des comptes qui crie, le verset 25, « Tu nous as rendu la vie. » Voilà le peuple dont on attend aujourd'hui dans toutes nos nations, dans tout le pays, on a besoin d'un État qui s'occupe de son peuple. Donc nous devons, nous en tant que peuple de Dieu, prier pour que nous ayons ce genre d'État, des États qui ne sont pas là que pour eux-mêmes, mais qui travaillent pour l'intérêt de leur peuple. Ils travaillent pour que le peuple ne meure pas. Donc le peuple ici est mis au centre pour que le peuple survive. Et le peuple est reconnaissant.
Mmh.
Bah, nos prières doivent être vraiment dirigées pour que le Seigneur donne des états qui mettent le peuple en avant-garde. Amen.
Amen. Vraiment, c'est un cri de cœur pour un cri de cœur en faveur de la prière pour les nations. Dieu veut, Paul le dit à Timothée, que nous prions en tout cas pour ceux qui sont élevés en dignité, qu'ils soient, c'est vrai qu'ils travaillent de manière à assurer la paix dans les nations, parce que notre bonheur aussi dépend de cela. S'il y a la paix, nous pouvons servir aussi le Seigneur de la manière appropriée. Que nous ayons en tout cas des hommes d'État comme Joseph. Mais ici, je crois que nous pouvons, et effectivement, il n'y a pas de mal à revenir un peu sur ce qui se passe dans les nouvelles. S'il y a un mot aujourd'hui que les personnes en autorité n'osent pas prononcer, du moins publiquement, c'est le mot austérité. On peut le voir, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou ailleurs, lorsque certaines politiques sociales sont mises en place, partout on craint ou on perçoit l'odeur de l'austérité, des gens sautent dans la rue, ils ne veulent rien savoir, etc. Mais nous voyons dans ce contexte ici, comme nous avons pu le voir dans nos commentaires, les commentaires dans le pain du jour, frères et sœurs, que lorsque le travail est fait avec transparence, avec droiture, lorsque le peuple sait comment les revenus de l'État sont utilisés, la population comprend à ce moment-là et elle fait confiance aux dirigeants. Elle va même accepter les mesures qui sont supposées être sévères pour surmonter les crises. Et même dans ce cadre-là, quand il y a la transparence et que l'intégrité est connue de la part des dirigeants, le peuple finit par accepter les décisions, même les plus difficiles. Voilà ce que nous pouvons faire et prier pour que le Seigneur donne des dirigeants intègres et dévoués qui s'occupe bien en tout cas de la chose de l'État. Je vais donner la parole au frère Gaston.
Merci, pasteur José, pour la parole. Je suis au verset 24 et 25 pour continuer sur cette lancée. Je suis plus interpellé de la fidélité et l'amour avec lesquels Joseph est en train de servir Dieu et les peuples, sachant bien qu'il est immigrant et il gère cette situation en pleine crise. Mais malgré cela, la planification, le peuple vient avec de multiples requêtes et il résout cela pour le bien-être de tout le monde, de telle sorte que le peuple se lève et dit « Tu nous as sauvé la vie ». Nous voyons ici pour la récolte, il leur donne de quoi s'aimer. Ils doivent garder les 4 cinquièmes et remettre à l'État les 1 cinquième. Ce qui est rare de nos jours où parfois dans les gouvernements, on veut prendre les 4 cinquièmes, surtout dans les pays où la dictature bat son plein, pour laisser à la population que les 1 cinquième, afin qu'il y ait vraiment un grand décalage entre les riches et les pauvres. Mais ici, Joseph continue à servir l'Éternel par ses actes. Et quel bel exemple pour les chrétiens. Je me posais la question, en cette période de crise, si quelqu'un partait voir le pharaon, lui disait que les gens qui servent le Dieu de Joseph sont des faux, ils sont mauvais, ils doivent partir. Je m'imagine déjà quelle aurait été la réaction du pharaon suite à cette requête-là. Ce qui m'interpelle, que je sois immigrant ou pas, partout où je serai, que je puisse servir l'Éternel réellement, selon toute la force et la sagesse et l'intelligence qu'il me donne, et que je fasse le travail. Il y a beaucoup l'adage qui dit qu'en période de crise, plusieurs hommes d'État cherchent des solutions dans l'occultisme pour gérer les peuples. Mais ici, Joseph, malgré qu'il était marié même à une égyptienne fille d'un prêtre, mais dans les actes qu'il pose, on sent qu'il continue à servir l'Éternel, à faire confiance à l'Éternel. Et dans cette crise, il va la résoudre efficacement parce qu'il fait confiance à l'Éternel et il vise le bien-être social de la population qui est mise à sa disposition. Amen.
Merci frère. Donc nous retenons que nous devons réaliser, quel que soit le temps, abondance ou souffrance, nous devons être conscients que nous sommes au service de notre Dieu, au service de l'Éternel. Et encore une fois, j'y ajoute que si nous sommes fidèles lorsqu'il y a l'abondance, nous le serons aussi même lorsqu'il y aura la disette. Merci frère. Je vais redonner la parole au pasteur José.
Merci. Je suis au verset 22 où il est question de terres de prêtres. Les terres de prêtres ont échappé à ce qui se passait, c'est-à-dire ces terres-là n'ont pas été achetées par le pharaon, puisque il y avait une loi au verset 22, parce qu'il existait un décret de pharaon, du pharaon en leur faveur, que les terres des prêtres sont leur propriété. Ce n'est pas la propriété de l'État, mais c'est leur propriété compte tenu de leur travail, compte tenu de ce qu'ils font. Les prêtres égyptiens étaient très importants. Souvenons-nous de un peu d'histoire du secondaire où on nous a appris les noms de certains dieux égyptiens, les Osis, Isis, Amora et les autres. Il y avait beaucoup de prêtres. Et les prêtres étaient considérés. Ils étaient considérés parce qu'ils jouaient le rôle d'intermédiaire entre les dieux, ces dieux-là, et le peuple. Par conséquent, on leur devait beaucoup de respect. Et c'est ce que nous voyons ici. Leurs terres sont restées intactes. Bien-aimés, le peuple égyptien, c'est un peuple religieux d'une façon générale. Ils croyaient à plusieurs dieux. Ils ont considéré les prêtres. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent dans le service, le Dieu suprême, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a des gens qui sont à son service. Si nos États, si nos autorités, si nos gouvernements prenaient les choses de Dieu au sérieux, ils agiraient comme les Égyptiens dans le temps, ce temps qui nous préoccupe. Mais aujourd'hui, on s'est dit chrétien, mais comme on est dans le gouvernement, comme on occupe un poste très heureux et élevé, on brandit la laïcité qui pousse vers l'athéisme. C'est dommage. Bien-aimés, nous devons prier pour les chrétiens qui sont quand même dans le gouvernement du monde, dans les pays dits chrétiens. Est-ce que ils prennent les choses de Dieu au sérieux comme les Égyptiens dans les temps? Merci.
Merci beaucoup. Papa Célé, ou Maxime, vous avez encore la parole.
Oui, merci beaucoup, Pasteur José du Canada, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 23 par rapport, disons, j'ai la main, par rapport à la demande qui est faite du peuple, disons, égyptien au verset 19. Et c'est le peuple qui a demandé que Joseph puisse les acheter, eux et leurs terres. Et Joseph, en achetant, il fait les déclarations, il dit ceci au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Ça, c'est un bon témoignage. Il ne se capable pas de l'achat qu'il a fait, pas pour lui. Il sait que moi, je suis étranger sur cette terre. Et c'est ma façon de travailler pour Dieu. Il ne trique pas des choses pour acheter pour lui. Non, non. Il le fait honnêtement et on peut suivre. On verra que c'est un très bon témoignage. Il n'achète pas tout lui-même. Bien-aimé, combien de fois nous ne voyons pas, même nous qui nous disons enfants de Dieu, devant des clauses, il n'y a pas de clarté. On ne sait même pas suivre parce que les choses ne sont pas claires. Or, nous sommes appelés à être clair, même si on nous commande de faire quelque chose, nous devons le faire sans toutefois voir nos propres intérêts. Amen.
Amen. Encore une fois, cet aspect du problème revient revient dans le partage. Ce qui veut dire, frères et sœurs, nous avons besoin de mettre de l'ordre dans nos vies. La manière que nous gérons les finances de la famille, les finances dans l'Église, les finances dans les organisations, le FIMES ou ailleurs. Donc, lorsque nous sommes vraiment fidèles, même dans les petites choses, c'est comme ça, a dit le Seigneur, que nous pouvons, que les grandes choses nous seront confiées aussi. Et partout, comme le verset 23 ici, lorsque les choses sont si clairement présentées, comme le dit Joseph, le peuple sait où va l'argent. Le peuple sait comment les choses sont utilisées dans la maison, là où nous sommes. Est-ce que nos enfants ou même le conjoint, la conjointe, est-ce qu'ils savent comment les biens de la famille sont utilisés? Je crois que s'il y a de la transparence dans notre vie, la transparence augmente la confiance. Voilà, c'est ce qui revient un peu plus dans des partages juste là. Pour moi, je prends ça un peu comme la parole qui a été dite tout à l'heure, que où que nous soyons, nous devons réaliser que c'est Dieu qui nous a placés là. Alors, ce que nous faisons, nous devons savoir que c'est pour Dieu que nous le faisons. Et c'est pour cela, voyons-nous, frères et sœurs, en famille, là où nous avons l'occasion de faire des choses, dans l'église, au FIMES ou ailleurs, si nous travaillons comme Joseph, nous pouvons être vraiment l'objet de bénédictions, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour beaucoup d'autres. Regardez le verset 27, frères et sœurs. Ce verset, pour moi, je l'ai mis à part parce qu'il traduit une double ou une triple réalité. La première, c'est que regardez comment les Égyptiens sont complètement dépossédés de leurs biens. Ils se sont dépossédés de leurs biens pour même se livrer à Pharaon, comme le pasteur Célé nous a fait voir tout à l'heure. Je pense que c'était dans un verset. Ils sont venus dire, en fait, le verset 18, ils sont venus dire à Joseph, il ne reste devant toi que nos corps et nos terres. Pourquoi est-ce qu'on devrait mourir? Au verset 19, et ils vont dire, donne-nous de quoi s'aimer afin que nous vivions. Donc, on va, nous-mêmes, nous nous livrons comme esclaves à la maison de Pharaon. Mais regardez le contraste dans le verset 27. Pendant qu'il y a des possessions en Égypte, à Gozen, la région où habite Israël, on nous dit au verset 27 que eux, ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Pour la première fois, c'est vrai que Joseph, on peut voir avec les 12 enfants qui ont eu aussi des enfants, environ 70 personnes ou 72 sont arrivées en Égypte. Et là, on va utiliser le verbe multiplier auquel il y a un adverbe beaucoup, ce qui traduit cette promesse que Dieu avait faite aussi à Abraham, que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Et c'est le commencement de l'accomplissement de ce que Dieu avait promis à son peuple. Je suis fasciné tout simplement ce soir encore de voir que quel que soit le temps qui passe, Dieu accomplit certainement ses promesses. Pasteur Robert Christine, vous avez la parole.
Oui, merci Papa José encore pour la parole. Je suis dans le verset 30 où Jacob demande à son fils Joseph en le ferant même jurer que quand je ne serai plus dans ce monde, il ne peut pas m'enterrer ici, en Égypte. Donc cet homme, c'est un visionnaire qui se voit que ce peuple, Dieu lui avait même parlé avant qu'il vienne, que je vous accompagne en Égypte et je vous en fais sortir. L'homme qui vit avec les promesses de Dieu, il sait, ils sont provisoirement en Égypte et ils en sortiront. C'est ainsi qu'il prévient son fils de ne pas l'enterrer en Égypte. Donc, je trouve ceci comme une grande leçon pour nous, dans le sens que sur cette terre, nous sommes des passagers et que nous ne devons pas vivre en ignorant les réalités de notre cité, les réalités futures qui consistent à ce que nous sommes les citoyens du ciel, mais ne nous embourbons pas dans de futilités de ce monde. C'est vrai, nous avons encore les pieds sur la terre, mais nous devons vivre comme en sachant que nous sommes les citoyens de notre royaume. Sur la terre, nous y sommes provisoirement. Amen.
Amen. Vraiment, je saute sur cette occasion, effectivement, parce que dans le verset 27, cet autre aspect, non seulement c'est la multiplication, mais il y a aussi la richesse, les richesses qui s'accroissent, parce que les Israélites possèdent beaucoup de biens. Mais si Papa Céline nous parle du verset 30, nous avons ici un patriarche qui a conscience que tous les siens, toute sa famille qui se multiplie avec juste la multiplication, c'est déjà une bénédiction de Dieu. Mais il sait aussi que toute sa famille est en train de s'enrichir aussi. Il réalise sa décision, elle est lourde de conséquences. Il pose un geste espérant, j'imagine, que ça va être suivi aussi par les autres, que malgré votre multiplication, malgré vos richesses qui s'accroissent, que les réalités de ce pays ne vous fassent pas oublier ce que vous êtes. Ce qui revient effectivement à voir dans cette troisième partie qui a commencé du verset 28, selon moi, jusqu'à la fin, sur la double réalité non seulement de se préparer pour en vue de la cité céleste à laquelle nous appartenons. Pour cela, nous pouvons lire Éphésiens chapitre 1 qui va nous montrer que nous sommes un citoyen céleste. Nous sommes des étrangers sur la terre. Malgré les richesses qui s'accroissent, nous ne devons pas oublier ce que nous sommes et ce vers quoi nous tendons. Là où le Seigneur nous attend, c'est un lieu dont la prééminence doit dépasser évidemment les réalités d'ici-bas. Je vais donner la dernière parole au frère Thomas. Ensuite, nous conclurons.
Moi, je suis touché par les dispositions de l'enterrement que Jacob demande. Et je vois que c'est la même chose que Joseph, dans la suite, demandera aussi, que ses os soient transportés de l'Égypte pour faire retourner là où ses pères ont été enterrés. Et je vis ça aussi dans Abraham, qui devait payer la terre là pour y mettre sa femme Sarah, et finalement tout le monde va être enterré là-bas. Donc je vois un respect quand même dans l'aspect de l'enterrement. Quand nous enterrons les nôtres, même si les gens vont au ciel, mais il faut quand même un certain soin par rapport au corps qui a été enterré. Il faut se souvenir de bâtir un cimetière. Il faut respecter le corps. Il ne faut pas vendre le corps, les parties du corps, que quand on meurt, on peut prendre ceci, on prend de l'argent, comme je vois actuellement les gens faire. Ce n'est pas de Dieu. Nous devons apprendre à respecter l'endroit où on fait reposer un corps de quelqu'un qui a vécu pour Dieu. Je vois quand même ici que Dieu prend le temps de nous dire ça. Et même Moïse, quand il est mort, la Bible dit que Dieu l'a enterré. Donc je trouve qu'il y a quand même un aspect de Dieu, de respect du corps, lorsque on cesse de vivre ici sur terre, bien que nous allons au ciel en esprit, mais quand même le corps, je vois un certain soin de cela. Merci.
Merci, Frère Thomas, pour nous rappeler cet aspect aussi important. Je l'avais inclus dans la planification que nous avons à faire, des dispositions à prendre avant notre départ, avant notre mort, afin que les choses après nous se fassent de la manière appropriée. Ce point, cet aspect est largement ignoré ou négligé dans nos communautés, ce qui entraîne bien souvent, en tout cas, des difficultés lorsque une communauté, une église ou un regroupement de personnes font face à des décès. Le manque de planification, le manque d'avoir un plan, le manque de réfléchir ou de penser un seul instant, prendre un temps pour en parler avec sa famille, comme c'est le cas ici, entraîne bien souvent des difficultés. Et parce que nous sommes en Occident, l'enterrement ou les funérailles, c'est quelque chose qui coûte cher. Et pour bien passer à travers, nous avons besoin d'y penser et de planifier sérieusement cela. Parfois, pour certains, c'est pas toujours un problème que ça coûte beaucoup d'argent. Mais le fait de planifier très bien les choses, ça peut éviter beaucoup de tracas et parfois même la honte à la famille, à la femme, au mari ou aux enfants qui survivent. Voilà, frères et sœurs, nous avons quelques exemples ici de planifier. Nous croyons en Dieu, mais cela ne Dieu ne nous évite pas de ne pas planifier, alors que nous pouvons remettre toutes choses entre ses mains pour que la paix soit assurée après que nous soyons partis. Frères et sœurs, ce soir, et des choses partagées, notamment au plan administratif, transparence, fidélité, loyauté sont des vertus qui sont revenues bien souvent dans ce que nous avons entendu ce soir, autant dans la vie de Joseph que dans la nôtre. Parce que ce que nous lisons de Joseph nous interpelle. Même lorsqu'il faut prendre des décisions radicales, touchant l'austérité telle que nous en parlons aujourd'hui dans plusieurs nations, les éléments peuvent très bien passer auprès de la population lorsque ceux qui gèrent, gèrent avec droiture, transparence, intégrité, et lorsqu'on sent chez eux la loyauté, lorsqu'on sent que les décisions qui sont prises pour le bien du peuple entier, même les décisions les plus difficiles passent aussi très, très bien. Si ça peut se passer comme ça au niveau d'une grande communauté comme le pays, ça peut aussi l'être au niveau de l'Église, au niveau du FIMES, au niveau de la famille, etc. Il y a des possessions, deuxième aspect ici que nous voyons, lorsque les richesses s'accroissent, nous ne devons pas oublier qui nous sommes et c'est à quoi le Seigneur nous appelle. Le monde n'est pas notre patrie. Nous quitterons, nous ne sommes que des passagers. Et pour cela, nous devons garder le regard fixé vers la cité céleste où nous sommes citoyens et ne pas laisser les richesses du temps présent s'accaparer de notre cœur. À l'exemple de Jacob, nous devons penser à l'avant et aussi planifier et voir donner de l'importance aussi à ce temple qui a été utilisé par le Seigneur pendant notre séjour sur la terre et penser évidemment à son repos un jour. Voilà, frères et sœurs, quelques vérités que nous pouvons retenir pour ce soir. Papa Célé, nous avons quelques annonces.
Oui, merci Papa José pour la parole. Nous saluons les frères et sœurs qui sont à la radio, qui ont suivi le même message que ce que nous avons suivi, nous qui sommes ensemble et connectés. Ils sont nombreux aux États-Unis, North Carolina, Missouri, Texas, Massachusetts, au Canada, depuis le Québec jusqu'en Alberta. Nous bénissons ces frères et sœurs qui ont pris une bonne habitude de méditer avec nous via la radio. Ça, c'est la première annonce. La deuxième, c'est que nous continuons à prier pour le camp biblique, les préparatifs, et de ceux qui sont sur le terrain en Belgique, et de nous, nous continuons à prier, à nous mobiliser pour que ce rassemblement soit une bénédiction, non seulement pour ceux qui seront là, mais pour le monde, parce que nous ferons diffuser le message partout dans le monde. Amen.
Merci beaucoup. Est-ce que pourrais-je demander au frère Jean-Laurent? Frère, est-ce que vous m'entendez? Non. OK. Papa Thomas, est-ce que vous pouvez clôturer par la prière, s'il vous plaît?
Prions. Tendre Père, merci pour ce que tu fais dans la vie de Jean. C'est Joseph qui était un esclave haï de ses frères, vendu à coups d'argent, trahi par la femme de son patron, qui est descendu jusqu'en prison, oublié par les chansons du roi. Tu l'amènes, Seigneur, à ce point où il ne dirige pas seulement la maison de Pharaon, il ne dirige pas seulement l'Égypte, mais il dirige le monde entier qui vient frapper à sa porte pour la nourriture. Ô toi Dieu qui élève quelqu'un de la boue, toi Dieu qui prend quelqu'un de l'arrière du pays de la boue, le fait asseoir parmi les princes de son temps, sois loué, sois remercié. Tendre Père, nous remarquons que le secret de Joseph était que Dieu, toi, tu étais avec lui et tu l'as fait prospérer. Et tu as rendu les visions qu'il avait, les rêves qu'il avait, Seigneur, une réalité. Et tu as amené ses frères à se courber, ses parents à se courber à lui. Tu lui as donné l'intelligence de la gestion pour, Seigneur, sauver la vie, pas seulement le gens de Cana, mais aussi le gens de l'Égypte et du monde entier. Même s'il les avait achetés, il ne les a pas achetés pour lui-même, mais c'est pour Pharaon. Et même là, il ne faisait donner à Pharaon qu'un cinquième, mais le quatre cinquième leur appartenait pour qu'ils aient aussi quelque chose pour cultiver. Donc finalement, au fait, ils survivaient eux-mêmes aussi. Oh Dieu, toi qui donnes des nominations à des gens dans le ceux qui sont au pouvoir, nous prions Dieu qu'aujourd'hui les frères et les sœurs que tu mets au gouvernement, au mouvement de leadership, de conduire les autres, Seigneur, aient de la compassion pour les gens et que les lois soient en faveur, Seigneur Dieu, de l'épanouissement social, intellectuel, scientifique, épanouissement spirituel de gens dirigés par d'autres. Seigneur, qu'il y ait la compassion dans nos pays. Seigneur Dieu, qu'il y ait des lois et des règles, Seigneur Dieu, qui soient favorable à ce que le peuple cherche ta face. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les prêtres dans l'Église du Christ, ceux qui nous dirigent, les pasteurs, les hommes de Dieu dans des ministères, Seigneur. Que les lois, Seigneur, que la vie sociale leur soit, Seigneur, favorable. Que dans l'Église, on paye les pasteurs. Que dans les ministères, Seigneur, qu'on paye ceux qui y travaillent. Bénis les fumées, amène-nous dans une dimension où demain, nous pouvons racheter le temps, Seigneur, de ceux qui travaillent durement, Seigneur, pratiquement à temps plein, sans rémunération. Oh Dieu, ouvre les portes, bénis-nous pour avoir une bonne séance, Seigneur, en Belgique. Donne les moyens de fonctionnement aux fumées, donne le moyen de fonctionnement de l'Église. Oh Seigneur, fais que le travail se fasse avec ta puissance. Bénis ton serviteur qui nous a dirigés. Oins-le, Seigneur. Bénis-le au travail. Bénis-le à l'église. Bénis-le, Seigneur, dans le ministère, Seigneur Dieu, qu'il supporte à travers de sa vie, Seigneur. Tu connais sa générosité et son souci de soutenir l'œuvre. Récompense-le, Seigneur, soutiens-le. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et remplis-nous, Seigneur Dieu, de l'obéissance à la parole que nous avons apprise. Sois avec nous, console, Seigneur, ceux qui souffrent. Et fais que, Seigneur Dieu, les gens qui se sentent déprimés aujourd'hui, demain, comme Joseph, qu'ils se sentent élevés et soutenus et consolés. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur et Seigneur, nous avons prié. Amen.
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 Merci de tout cœur, frère, pour la prière. Demain, nous allons lire tous les chapitres 48. De Genèse, nous aurons les questions de Seth pour nous aider dans notre méditation. Bonne nuit, frères et sœurs, et à demain, par la grâce de Dieu.